L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour cette nouvelle émission Afrique dans tous ses états, c'est toujours avec Marie-Claude Kézac. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine, et toujours ravie de vous rencontrer pour faire un petit voyage en Afrique.
Aujourd'hui, notre invité d'Afrique dans tous ses états, c'est Aziz Fall, politologue, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara. Bonjour Aziz Fall.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette date mémorable et qui, on l'espère, restera aussi dans les annales des procès, car nous enregistrons cette émission ce lundi 11 octobre, date à laquelle commence à Ouagadougou le procès des responsables de la mort de Thomas Sankara, qui, devons-nous le rappeler, s'est déroulé le 15 octobre 1987. C'est pour vous, bien sûr, Aziz Fall, un moment plutôt chargé d'émotions.
Oui, d'abord parce que je devrais y être et je n'y suis pas parce que Blaise Compaoré, le plus présumé responsable, n'est pas dans le box des accusés. Et comme j'avais initié cette affaire il y a déjà 25 ans, mon collectif d'avocats y sera et c'est sûr que je suis un peu partagé. Je regarde ma montre, ils doivent être en train de s'apprêter. Bien sûr, je ne suis pas indispensable. Nous avons une équipe qui travaille d'arrache-pied, qui ont eu à épuiser tous les recours juridiques dans ce pays, qui sont allés ensuite aux Nations Unies pour régler cette question, qui ont obtenu des droits. Et à la faveur des grandes mobilisations, le régime Compaoré, qui a été longtemps soutenu par la France-Afrique, est finalement tombé. Il a été exfiltré par les services français et ses alliés en Côte d'Ivoire. Et un juge d'instruction a finalement inculpé une vingtaine de personnes. Il va y avoir à peu près 67 témoins, deux témoins experts. C'est un procès qui est attendu par toute l'Afrique, puisque Thomas Sankara incarne une figure historique des révolutions africaines, de l'internationalisme. Et je crois qu'on va assister en tout cas à différentes péripéties, peut-être des arguties juridiques. C'est un moment très très attendu, beaucoup de tensions dans un pays qui est lui-même affecté par l'instabilité djihadiste qui a déstabilisé le pays et qui a provoqué des déplacements de population, ce qui amène aussi toutes sortes de conciliabules au nom de recréer une forme de réconciliation nationale qui permettrait le retour avec amnistie, etc. Donc on voit déjà des marchandages d'arrière-cour se faire, mais aussi des tentatives d'exonérer la France et tous les autres acteurs majeurs en voulant créer une sorte de complot local sur quelque chose qui a probablement une plus grande ampleur.
Alors moi, je voulais simplement rajouter d'abord remercier Aziz Fall d'être parmi nous, surtout qu'il va s'envoler tout prochainement. Il a accepté quand même de faire un petit crochet par la radio et par notre émission. Et puis j'ai une pensée toute particulière pour Madame Sankara, qui se trouve là-bas, qui a du courage, qui va être confrontée déjà à toutes ces histoires qui se sont passées au pays, en sachant, comme vient de le dire Aziz Fall, qu'il y a aussi des implications étrangères et qu'à un moment il faudra que la lumière se fasse. Et j'ai une pensée très très forte pour le peuple burkinabé qui attend ça depuis si longtemps et avec lequel souvent j'ai attendu et me suis désespérée jusqu'à des événements qui ont fait que la donne a pu changer et que ce procès peut avoir lieu aujourd'hui. Donc courage à tous et comme ils disent là-bas, on est ensemble.
Combien de temps va durer ce procès, Aziz Fall, selon vous?
En fait, on n'a vraiment aucune idée. C'est un tribunal d'exception, tribunal militaire. Ça peut être expéditif avec les militaires. Mais étant donné que nous avons un très volumineux dossier, presque 10 000 pages, beaucoup de témoins, comme je crois l'avoir dit, mais aussi une sorte d'expectative sur les procédures, comment les parties adverses vont agir, l'ex-président Compaoré ne veut pas comparaître, il s'est débrouillé pour faire émettre un communiqué il y a 72 heures, histoire de déjà camper la situation dans laquelle il risque de mettre le tribunal. Et c'est sûr que si certaines langues se délient, les responsabilités seront imputé à ceux qui ont probablement été les commanditaires. C'est pas les seconds couteaux qui nous intéressent, c'est vraiment l'ampleur de ce drame. Donc on ne sait pas, en fait on ne sait pas vraiment. Ah, si on regarde le tribunal qui a eu à traiter l'affaire du putsch, puisque justement dans la transition après la mobilisation populaire et l'exfiltration du président Compaoré, il y a une tentative désespérée de ses sbires de prendre le pouvoir et ils ont tiré sur la foule, etc. Et donc, il y a un procès du putsch qui lui a été relativement expéditif. Donc, franchement, je ne voudrais pas supputer sur la longueur. Tout ça est laissé à la discrétion des juges d'instruction, du procureur, etc. Mais on fera notre travail, en tout cas.
Marie-Claude, on va suivre ce procès de notre côté pour notre émission, peut-être donner des nouvelles.
Tout à fait, on va essayer, effectivement. De toute façon, le suivre, ça, c'est sûr. On a attendu tout ça trop longtemps. Moi, ça fait 26 ans que je vais là-bas et que, vraiment, je sens bien l'importance, justement, de cette justice pour le peuple, pour beaucoup de gens là-bas. Et puis, bon, personnellement, en tant qu'engagé, par rapport aux droits de l'homme, etc. Et bien sûr que je pense qu'on va essayer de donner des nouvelles dans le cadre de notre émission, déjà, aussi, puis peut-être extérieurement aussi, hein. Voilà.
Alors, vendredi 8 octobre, FM Plus a organisé une soirée, un après-midi au Gazette Café, qu'on a appelé Gazette Africa. Vous êtes intervenu, Aziz Fall, car nous évoquions le féminisme en Afrique, la santé en Afrique, et vous étiez aussi le soir même, voilà, dans le contre-sommet. Et comment se sont passées ces réunions, autour de l'Afrique, avec ces points de vue différents, avec ces interventions différentes? Qu'est-ce que vous avez pu en retenir de ce qui s'est passé à Montpellier?
Écoutez, je suis de toute façon venu à Montpellier, invité par plusieurs organisations au contre-sommet pour parler de la question de l'impunité. J'y suis venu, je crois, pour la deuxième ou troisième fois de ma vie, avec toujours un grand plaisir à redécouvrir cette ville charmante. Vous savez, c'est principalement des convertis, des gens qui sont entre nous, nous sommes déjà plus ou moins militants. C'est des publics plus ou moins déjà acquis et qui voient d'un très mauvais œil le cirque à la fois électoral et ses tentatives de revamper la politique étrangère de la France en cooptant des pans de nos sociétés civiles, d'ailleurs lesquels plans sont triés. Pourquoi cela et pas d'autres? Pourquoi on ne discute pas des véritables sujets fondamentaux? Vous savez, je vois d'un très mauvais œil la Grande-Bretagne faire par exemple un exercice similaire, coopter des pans de nos sociétés civiles, ou demander au Nigeria d'inviter des gens de la société civile française pour discuter de leur politique étrangère avec la France. Donc l'exercice paraît paternaliste, mais c'est la relation patron-client qui perdure. Maintenant, je peux comprendre le côté rafraîchissant, inédit des élites de la France qui essaye de se démarquer d'une politique pesante. Le mode néocolonial de croissance est sénile, il est pratiquement à sa mort. La France-Afrique traîne des passifs dangereux, compromettants pour la poursuite des régimes en place. L'Europe elle-même est en train de changer, la France change profondément, le populisme progresse et parfois même avec des relents de peste brune. Vous avez des problèmes d'immigration dus à nos problèmes de sous-développement. Donc, en fait, il y a un cocktail explosif qui fait qu'on peut à la fois saluer l'initiative. Souvent, c'était des jeunes dépolitisés qui venaient à ce sommet. Et donc, dans le côté du contre-sommet, on a vu plutôt plus de têtes grisonnantes, des gens qui savaient pertinemment ce qu'était la France-Afrique. Très peu de jeunes, hélas, et on n'a pas pu rejoindre probablement les masses populaires de France pour leur donner le là de ce qui aurait dû se faire. Ça, c'est évidemment le militantisme et, disons, la fatigue des gauches progressistes de par le monde qui fait ça. Mais je crois que nous avons fait notre part, nous avons expliqué aux gens qui ont daigné venir la réalité de la lutte contre l'impunité, mais aussi les problèmes de sous-développement et la perspective d'une meilleure politique étrangère de la France. C'est pas à nous de la décliner, chaque pays défend ses intérêts. Nous, notre position, c'est une position panafricaine. Donc, elle-même n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous travaillons pour l'avènement d'un État panafricain, et cet État panafricain effraie le monde entier, parce qu'effectivement, le jour où il va advenir, les relations seraient différentes. Là, nous aurions des relations bilatérales avec la France, des vrais sommets Afrique-France, et pour que ça advienne, il faut que les régimes compradors, ceux-là même qui ont assassiné Thomas Sankara, ou qui perdurent à la tête de nos États, et qui sont soutenus par perfusion, par des intérêts extérieurs dont certains sont dans vos pays, ces systèmes-là doivent tomber. Et c'est pour ça que nous venons ici.
Aziz Fall, nous l'avons dit, vous êtes politologue, vous êtes aussi avocat, vous l'avez rappelé. Ce procès de Blaise Compaoré est quand même une acmé dans votre carrière, j'imagine. Mais quels sont Quels sont vos autres chevaux de bataille, vos autres chevaux de bataille en tant qu'avocat?
Je vais rectifier. En fait, je suis pas avocat. Il se trouve que je coordonne depuis 25 ans ce collectif d'avocats sans en être un. Mais comme j'enseigne à la faculté de sciences politiques et de droit et que j'ai dû à travailler dans le droit depuis très longtemps, beaucoup de gens, hélas, pensent que je le suis. Hélas, je ne le suis pas. J'ai fait parfois des effets de toge quand je parle, mais j'en suis pas une vraie fraude, un imposteur. Je ne suis pas avocat. Par contre, comme homme politique engagé, évidemment, j'ai quelques chapeaux. Le premier enjeu pour lequel d'ailleurs j'étais venu à Montpellier, c'était de montrer mon film sur les bases militaires étrangères, l'occupation militaire des forces américaines, le film Africom Go Home. Je fais aussi un peu de cinéma, donc j'ai fait un film sur Samir Amin, qui est donc une des grandes figures iconiques de la gauche tiers-mondiste, qui s'appelle Samir Amin, l'internationaliste organique. Donc c'est des films qui sont disponibles sur l'Internet.
Vous pouvez peut-être redire les titres, parce que je pense que justement dans un souci de diffuser un peu la vérité, ça peut être intéressant que les gens puissent avoir accès à ces vidéos.
Oui, bon, vérité, comme je dis, c'est un point de vue progressiste sur le monde, sur la mondialisation, dans une autre perspective. Je ne sais pas si les gens considèrent que c'est une vérité. Donc le premier, c'est Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique. Il y a une version anglaise et allemande de ce film, puisque c'est à Stuttgart que cette grande base militaire est basée, et à partir de là, de façon panoptique, contrôle le continent africain. Et le film Samir Amin, l'internationaliste organique, met en scène différentes personnes dans ce documentaire à la mort de cet illustre politicien et économiste. Et donc, c'est en fait un clin d'œil sur le type de développement autocentré, la même histoire dont on parle avec Thomas Sankara. Et autrement, bon, ben, je m'intéresse aux grands enjeux du siècle, l'écologie, la construction d'une cinquième internationale un jour, etc. C'est les choses sur lesquelles je m'attelle et j'enseigne. Donc, je suis toujours en contact avec mes étudiants et voilà, c'est la petite vie que je mène.
Alors, le panafricanisme, c'est un vrai serpent de mer pour les États africains. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à relancer cette idée-là? Est-ce que vous avez des hommes? Quels hommes avez-vous? Je ne sais pas, j'ai l'impression que le panafricanisme était porté par des grands hommes dans les années précédentes. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous voyez cette idée de panafricanisme?
Ben moi, je le vois à partir de ce que moi je considère être la stratégie panafricaine. Donc j'ai un concept que j'appelle le panafricentrage. Il s'agit en fait de sortir un peu de la gang des époques du groupe de Monrovia, du groupe de Casablanca, la génération de nos pères qui était un peu engluée dans le mode néocolonial de croissance. C'est un peu comme vous me diriez l'Europe d'aujourd'hui comparée à l'époque des Schuman et des autres. Donc oui, il y a eu des précurseurs et maintenant il y a différentes trajectoires, une dispersion des itinéraires, des façons de voir différentes. Il y en a qui le voient pratiquement en termes de suprémacisme noir, c'est seulement les négro-africains. Il y en a qui le voient du Cap au Cap, donc de la Tunisie à l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est. Donc il y en a qui le voient comme une sorte d'intégration politique, mais véritablement en laissant les États tels qu'ils le sont. Certains le voient en confédération ou en fédération. Donc il y a vraiment, comme vous le disiez, différentes acceptions. Mais au fond, fondamentalement, ce qu'il faut, c'est de voir que cette Afrique, elle ne doit plus être intégrée de la même façon dans la mondialisation, sortir de la vieille division internationale du travail, créer un marché intérieur de biens de consommation de masse, avoir une armée continentale, une monnaie continentale, un parlement, une supranationalité qui laisse aussi en même temps en déconcentrant des pouvoirs aux États-nations. Et c'est une Afrique des peuples, donc ça c'est long parce que l'impérialisme ne veut pas ça. Les autres puissances rapaces qui aujourd'hui viennent aussi pour les ressources de l'Afrique ne voient pas ça d'un bon œil. Mais dans notre marginalité, nous croissons. Et il y a à peine une dizaine d'années, un rapport des services français montrait que le risque le plus imminent pour l'Occident, c'était justement l'avènement du panafricanisme et pour la France. Et je crois que c'est une erreur, c'est une lecture qui est accaparée par des gens qui ont maintenu l'Afrique dans la période de décolonisation, qui ne voient pas un autre monde possible. Et l'implosion de l'Europe passera par les crises intestines générées par les lourdeurs de l'immigration, etc., par le populisme qui va exploiter cela. Et les solutions, c'est justement une Afrique prospère une Afrique qui joue sa partition, et rappeler aux Européens que c'est nous qui avons habité en Europe, bien avant vous. Les Africains ont habité l'Europe pendant des milliers d'années, ils ont été dépigmentés, ils ont été mêlés à d'autres peuples, certains ont été décimés. L'Afrique a ensuite participé à l'avènement de l'État-nation, l'État commence en Afrique, les formes de démocratie avec d'autres modèles de régulation existent en Afrique. Une bonne partie des premières mondialisations passe de l'Afrique. Avant sa déchéance, il y a à peine 6 siècles, avec les formes d'esclavage et de colonisation, et donc rien n'empêche que cette Afrique reparticipe d'une autre façon. Ça ne veut pas dire qu'on va être plus grand, mais qu'on pourrait au moins sortir de la condition de sous-développement, aller vers des développements beaucoup plus proches des forces vitales, plus respectueuses de l'environnement. D'ailleurs, si vous regardez les visions optimistes du vivant, la force vitale, la conception de la vie, l'humanisme, c'est profondément africain, c'est ancré dans nos façons de voir. Et ce sont ces choses qui sont en érosion en Occident et même de plus en plus en Orient et qui expliquent que les touristes, quand ils viennent en Afrique, ben évidemment, ils sont amoureux de l'Afrique parce que c'est les choses, le rapport du vivant qui se perd dans leur société de plus en plus individualisée et déshumanisée. Je n'embellis pas l'Afrique, je sais que nous-mêmes, nous avons une érosion de ces valeurs, mais c'est là qu'elles sont les plus persistantes. Donc, nous avons une autre vision du panafricanisme, évidemment modernisée, mais moi je le vois dans une perspective internationaliste, où ce sont d'abord les travailleurs, les peuples qui prennent les commandes des mécanismes de diffusion, qui évitent la plutocratie qui fait dériver le développement vers leurs intérêts. Donc c'est une Afrique en lutte, elle va être longue à advenir, mais elle est en progression.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le mot qui me vient dans l'esprit, c'est qu'il faudrait... Est-ce que vous pensez que les peuples, comme vous dites, seraient en mesure d'accepter une décroissance, même si ce terme-là peut paraître paradoxal quand vous dites qu'il va falloir sortir de la colonisation, ou en tout cas de l'esprit, cet esprit-là. Je ne sais pas pourquoi, moi, je pense à décroissance. Est-ce que c'est un mot tabou pour un politologue comme vous, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous entendriez?
Ah bon, je pense que le problème de la décroissance est un problème inhérent au productivisme occidental, c'est-à-dire que c'est le mode de croissance qui a été confondu avec le développement, lequel développement lui-même est un système qui n'est pas neutre. En allemand, développement, c'est Entwicklung, il apparaît au 19e siècle. On peut se poser la question comment faisaient les sociétés avant qu'on conceptualise le mode développement. Et le cheval de Troie du développement, ça a été la croissance. Et la croissance mue dans le capitalisme, évidemment, c'est de la destruction et la transformation de l'écosystème, des relations sociales pour produire de la marchandise, pour l'échange solvable, comme montre Ritz et bien d'autres. Et donc, évidemment, si c'est ça, il faut absolument décroître pour surtout les sociétés qui ont atteint des niveaux où la duplication des niveaux de vie, le gaspillage, le productivisme est clairement en contradiction avec les capacités de la planète de pouvoir les soutenir. Mais ce n'est pas le propre des trois quarts de l'humanité. Donc, il faut revoir le paradigme du développement. Et je crois qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus. Maintenant, c'est certain que l'idée de décroissance, que ce soit celle de François Partant ou de Serge Latouche et bien d'autres, est une idée très séduisante. L'idée de pouvoir garder un développement optimal, de le garder de façon stationnaire et équilibrée, c'est un équilibrisme d'économiste. Théoriquement, c'est possible, mais avec les égoïsmes humains, avec les rivalités, c'est extrêmement dur. Peut-être à petite échelle, de façon pyramidale, dans des formes anarchiques de société, oui, mais encore faut-il que les consciences populaires évoluent vers cette façon de voir. Donc là, c'est le commensal, c'est le vivre ensemble. Moi, je vois davantage d'abord sur les biens publics qu'il faut préserver, sur les biens communs qu'il faut absolument sauver, sur l'élargissement de la marge de l'État, mais un État de démocratie populaire. C'est sûr qu'on peut voir ça sous une forme de totalitarisme, mais ce totalitarisme de la majorité qui voudrait un monde meilleur pourrait très bien dire que ce monde il doit passer avec un équilibre de décroissance beaucoup plus responsable. Et c'est les jeunes générations, encore faut-il qu'elles soient conscientes des enjeux et qu'elles soient capables d'arnacher tout ce mouvement. Nous, ces mots nous sont familiers, ça nous parle, on y a cru, voilà, on se bat pour ça. Est-ce qu'eux comprennent et sont capables de traduire cela? Je vous donne une anecdote simple. Je regardais la conférence que j'ai offerte avant-hier, et voilà, le nombre de gens qui l'avaient regardé, ils n'étaient pas si nombreux, ils comptaient un millier et quelques, mais ceux qui l'avaient vu, mais avec juste un segment, dans la même soirée, ils étaient plus à 28 000, donc ils avaient pris 3 minutes ou 4 minutes par-ci, puis c'était ça que les gens regardaient. Alors, ces succès d'années de réalité que ces jeunesses comprennent, si c'est ça aussi la décroissance de la réalité, la décroissance superficielle des choses, non, c'est pas ça qu'on veut, puisque il faut vraiment s'atteler à révolutionner la pensée. Donc, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les efforts très bien intentionnés de Serge Latouche et de Partant, qui probablement n'ont pas été compris, mais qui sont compris par d'autres. Et je crois que, bon, entre des grilles plus ou moins néo-marxistes et celles-là, il doit y avoir une sorte d'équilibre, de synthèse, avec agrémenté d'écologie, et en faisant ce mélange, il doit sûrement y avoir quelque chose qui soit prometteur et de façon universelle.
Oui, donc l'espoir c'est dans la jeunesse, et c'est vrai que la question c'est comment mobiliser réellement les gens. Alors, c'est sûr qu'il y a tout un... Moi, ce qui me ravit souvent, enfin on en parle, c'est que toutes les jeunesses, que ce soit au nord ou au sud, on sent bien qu'il y a une espèce d'emballement comme ça des choses. Après le souci c'est par moment qu'il y ait cette cooptation entre le nord et le sud, en deçà et au-delà de tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'après on peut pas non plus... Envisager un avenir, une structure d'avenir, construire un avenir, sans quand même avoir conscience d'un minimum du passé. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose là qui est encore un petit peu en souffrance, hein, et que voilà, peut-être que les vieux, les anciennes, donc vous disiez, ont quand même encore quelque chose à faire, mais plutôt dans un souci de transmission.
Ouais, c'est des choses qui disparaissent dans vos sociétés. Mmh. Chez nous, les vieux sont encore importants, et bon, c'est sûr que les systèmes de droit d'aînés aussi sont en érosion. Nous avons des sociétés où c'est à peu près 70% de la société qui ont moins de 35 ans.
Tout à fait.
Par rapport à des sociétés vieillissantes au nord. Donc, c'est sûr que le rapport, l'équation, elle est là, elle dit tout. Dans le capitalisme, vous commencez à la garderie et vous finissez à la garderie. C'est-à-dire que votre temps de vie active, il est relativement court. Vous accumulez une expérience qui n'est pas utilisée par le reste de la société. Vous êtes un rebut social, on n'y accorde aucune importance. En Afrique, c'est à ce moment que vous êtes valorisé, que vous êtes grandi, que la société vous respecte, que les décisions passent par vous. Donc c'est clair que ça ne veut pas dire que les plus âgés ont une vérité. Mais je crois qu'il doit y avoir une forme d'équilibre et que les jeunes doivent comprendre le passé pour comprendre leur propre avenir. Et à ce moment, ce qu'on appelle les équivalents homéomorphes, comme dit Panikkar, qu'on regarde dans les autres sociétés, comment on voit les droits humains et qu'on apprenne les uns les autres, c'est ça vraiment l'universalisme, c'est ça l'ouverture. Et je crois, comme dit Marie-Claude, si les gens effectivement sont sensibles à ça, et vous verrez que les gens qui ont voyagé, un peu comme vous, qui ont côtoyé différentes sociétés, effectivement ont des formes d'humanité enviables, hein, par rapport à ceux qui n'ont pas eu à se côtoyer, qui ne comprennent pas l'altérité, qui n'arrivent pas à faire ces synthèses. C'est clair, il y a une forme de pauvreté pour quiconque reste dans son petit terroir fermé, ou qui est enfermé dans sa classe d'âge. Donc c'est un peu ces synthèses-là qu'il faut réussir, ces syncrétismes qu'il faut réussir.
Et c'est pas simple à envisager en tout cas.
Non, mais j'ai une recette, ce sera l'objet d'une autre émission, j'ai une recette.
Merci Aziz Fall, vous êtes politologue, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara. Vous avez choisi pour clore cet entretien un morceau de Didier Awadi, Capitaine Sankara. Merci à vous, Marie-Claude Guézal. On se voit bientôt.
On pense fort, tout comme Aziz d'ailleurs, à eux là-bas, qui sont à Ouaga, sur des charbons certains. Et on espère fort, et on prie fort.
Au revoir, et merci.
Merci.
Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui baillonnent leur peuple.
Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara.
Père du Burkina, combattant, on le chantera.
Le gouvernement est là pour servir. Et non pour se servir, ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire que nous ne devons pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou les escroqueries.
Avec le style, avec le fond, avec la forme, elle s'empara, sans apparat. Le pouvoir qu'il met au départ, elle tentera, malgré les pièges qu'on lui brandira, de rendre sa dignité à l'opprimé, on le nommera. Père du Burkina, combattant, on le chantera. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Le militaire gère, visionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire. J'ai plus de mots dans mon dictionnaire. Fils du peuple, pour le peuple, c'est un solidaire. Le vrai dignitaire, intègre, mais pas le sanguinaire. La veuve, l'orphelin, le pauvre, on doit au sourire. Le bonheur est à nous, par nous seuls, on peut le définir. Les puissants paniquent, complotent, il faut le retenir. Sankara se pose et ose inventer l'avenir. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine 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 Noël Isidore, Thomas Sankara. Père du Burkina, combattant, on le chantera.
Président Thomas Sankara, Burkina Faso. Digne représentant intègre du Faso. Résident actuellement au cimetière. Révolutionnaire abattu par un faux frère. C'est à Dagnouin que reposent ses os, aussi blanchis que ceux de Norbert Zongo. Ville impérialiste, triste, équilibriste, tacticien, politique, assassinat, méthodique. C'est le vieux nègre et la médaille. Chez les vieux pères, c'est la pagaille. Ils ne savent plus quoi dire. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour les citoyens que nous sommes. Mais où en sommes-nous? Car on nous sommes de consommer et on nous sommes d'accélérer. Comme on nous sommes de m'exécuter. Les bêtes de somme que nous sommes se confondent à la tonne de misérables et les cloches sonnent pour la liberté. Et les cloches sonnent pour la dignité. Et les cloches sonnent.
Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. 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 Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara.
Père du Burkina, combattant, on le chantera.
Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte.
La patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons.